philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 31 janvier 96.
La réalité existant telle qu'elle est, il y a une abstraction. C'est ça que je veux dire. Une partie, c'est la réalité, c'est évident. Mais ce n'est pas la réalité totale. Ce n'est pas la réalité selon l'harmonie dans laquelle elle vit. Ce n'est pas la réalité selon les proportions qu'elle a entre la quantité et la qualité. Puisque on ne peut pas seule la quantité peut être augmentée. Les qualités, non. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, il faut donc signaler tout. Comment voyez telle réalité avec tel instrument? Autrement, vous ne signalez pas l'abstraction. Et c'est ça la question importante. Les sciences modernes disent quelque chose de la réalité, mais ne disent pas la réalité vivante. Disent la cause matérielle de la vie. Pas la cause finale de la vie, même pas la cause efficiente, en partie la cause efficiente, par le point de vue de la cause matérielle. Oui. C'est toute la question des critiques des sciences qui est si importante d'avoir. Mais cette petite remarque que fait Aristote au début de son De Anima, quand il dit l'intelligibilité du corps vivant, c'est l'âme. Ça n'a l'air de rien, ça. Mais c'est capital. Je connais mon corps par mon âme, en tant que mon corps humain. Et je ne connais pas mon corps humain en le regardant génériquement par rapport à tous les autres corps vivants. Je connais selon la cause matérielle. Le propre de la connaissance, c'est de préciser toujours quel aspect vous regardez. Vous dites la substance cause selon la forme de ce qui est. Donc vous précisez quelle est l'orientation que vous avez pris pour regarder cette réalité. Vous dites, l'acte, c'est la cause selon la fin de ce qui est. Selon la fin. Si vous confondez fin et forme, si vous confondez matière et forme, vous ne connaissez pas la réalité. Vous voyez, c'est toujours ce que je vous ai déjà dit et qui est si important, de ne pas bloquer ce qui est connu et la manière dont on le connaît. C'est le propre de l'erreur des néoplatoniciens, dit Thomas d'Aquin, de bloquer ce qui est connu avec la manière dont il est connu. Alors on dit, je connais cette réalité. Vous le connaissez vraiment sous tel aspect. Vous faites ça spontanément dans la réalité. Quand vous regardez une église romane, vous aimez la regarder sous des aspects différents. C'est sûr. Vous regardez la nef, vous regardez le transept, vous la regardez sous des aspects différents. Et si vous pouvez monter à la tribune, vous avez encore un autre regard. Et si vous avez une vision aérienne, vous avez encore un autre regard. On fait ça pour toutes les réalités. On précise. Vous voyez, parce qu'on sait que notre connaissance est abstraite. Que je n'ai pas l'intuition totale de la réalité. Je la regarde sous des aspects différents. Et mon intelligence interroge différemment. Et donc, dans la connaissance scientifique, il faudrait préciser. Parce que c'est quand même très important. difficulté. Oui. Mais c'est très important, ça. C'est capital. Il faut arriver petit à petit à le comprendre, ça ne comprend pas. Parce que le positivisme naît de là. Mais il n'y a qu'une seule manière d'atteindre la réalité. Et on regarde la précision la plus grande qu'on a. Mais la précision, c'est un aspect de la causalité matérielle. Le point de vue de la précision dans la division, dans l'aspect du groupe, l'aspect dans ce qu'on grandit la chose, on la grandit de façon telle qu'à ce moment-là, on découvre certaines choses qu'on ne découvrait pas autrement. C'est très vrai. Mais c'est toujours du côté de la cause matérielle. C'est ça qu'il faut, je crois, saisir. Vous voyez ? Parce que autrement, on peut atteindre quelque chose de très intéressant. La science moderne a quelque chose de très intéressant. Mais le danger, c'est qu'elle exclut les autres connaissances. Ça, c'est le positivisme. Elle exclut la philosophie. En excluant la philosophie, vous ne connaissez plus l'homme dans sa finalité. Vous ne connaissez plus l'homme dans son esprit. Vous ne connaissez plus que l'aspect matériel de l'homme. Mais c'est ça que je voulais dire. Vous voyez, et on doit toujours indiquer la manière dont on saisit la réalité. Et ne pas confondre ou non distinguer. Aboutit à une confusion entre ce qui est connu et la manière dont on le connaît. Oui. Et j'ai toujours remarqué que cette remarque de saint Thomas était très intéressante à voir, de distinguant la connaissance néo-platonicienne. On ne distingue pas ce qui est connu et la manière dont on le connaît. Par le fait même, ne peut pas aller jusqu'au bout. Comprenons que la connaissance du vivant, et là, précisons par rapport à Aristote, va impliquer quelque chose de nouveau. La connaissance du monde physique. Parce que j'ai une situation privilégiée pour connaître mes propres activités vitales. Je les connais d'une certaine manière de l'intérieur. non pas les qualités, mais la quantité. Et les qualités et les sensibles communs. Seuls les sensibles communs peuvent être mesurés. Les sensibles propres ne le sont pas et ne peuvent pas l'être. Alors, c'est cela que le philosophe va essayer, lui, de saisir. Saisir le vivant qui est l'homme, qui est moi-même, de l'intérieur, et comprendre qu'il y a une connaissance très spéciale que j'ai du vivant. Par rapport au monde physique, je suis extérieur. Et le monde physique, le point de vue de la quantité et de la matière, joue un rôle capital. Le vivant, c'est celui qui est constamment victorieux de la quantité et de la matière. Il subit les conséquences de la quantité et de la matière qui le limitent. Et lui, en tant que vivant, lutte contre cela. C'est le propre de la vie. Il y a un caractère d'immanence du vivant qui est unique. Et c'est ce point de vue de l'immanence du vivant que la philosophie du vivant devra mettre en pleine lumière. Comprendre que plus la vie et saisie en profondeur, plus l'immanence augmente. Vous avez un très beau chapitre dans Thomas d'Aquin, dans le Contre Gentilesse, au début du traité de la Très Sainte Trinité, donc le livre 4e, chapitre 11, je crois bien, où saint Thomas montre comment, si on regarde les différents niveaux du vivant, on voit que l'immanence est de plus en plus grande. Ce qui montre bien combien l'immanence est liée à la vie. Et que plus la vie est parfaite, plus elle a cette immanence. Donc, il y a une méthode spéciale, méthode, c'est-à-dire un cheminement particulier pour la connaissance du vivant. Une expérience nouvelle d'un type particulier, où il y aura à la fois l'expérience externe et l'expérience interne. Et l'expérience interne sera toujours considérée comme celle qui est la plus profonde pour le vivant. Ce que je ne peux pas dire pour la philosophie de la nature, tandis que je dois le dire pour la philosophie du vivant. Qui permettra de comprendre que lorsqu'il s'agit de l'être, il y aura toujours connaissance externe, connaissance interne, ceci est je suis. Par le je suis, vous avez une connaissance interne de l'être. Et c'est par le vivant, parce que seul le vivant peut dire je suis. Et le vivant le plus parfait, c'est-à-dire l'intelligence. Et ceci est aussi très important pour comprendre que la distinction entre objet et sujet, qui est très employée aujourd'hui d'une manière très équivoque, est une distinction qui n'est pas du tout première. Elle se fait à partir de mes opérations, où je saisis ce qui provient du sujet vivant et ce qui provient de ce qui détermine cette opération, qu'il s'agisse d'une opération intellectuelle ou d'une opération volontaire, qu'il s'agisse des sensations ou des passions. Et le couple objet-sujet, c'est à l'intérieur de l'analyse de l'opération. Mais l'opération relève toujours des deux. Et dans l'opération vitale, le point de vue du sujet va à avoir une importance capitale. Mais dans la vie de l'esprit, l'objet, ce qu'on appelle l'objet, va reprendre une importance primordiale dans la vie intellectuelle. Mais la vie intellectuelle est, se complète dans une vie affective, dans laquelle l'affectivité spirituelle, dans laquelle l'aspect du sujet, l'aspect subjectif, devient aussi primordial. C'est très intéressant et important, alors c'est une question à la fois de critique et de philosophie, de regarder les relations entre ce qu'on appelle objet et sujet. Et toujours, quand on voit un auteur, un philosophe, essayer de comprendre ce qu'il entend par objet et ce qu'il entend par sujet, ça donne des significations extrêmement diverses. Il faudrait, après avoir fait cette remarque, voir à quel moment est née la philosophie du vivant. Je crois que la philosophie du vivant est née avec Aristote. Elle n'a pas, il n'y a pas de philosophie particulière du vivant chez Platon. C'est Aristote le premier qui distingue, je ne dis pas qu'il ne dit pas, mais qui distingue la philosophie du vivant de la philosophie de la nature. Mais il ne distingue pas assez loin. La philosophie du vivant demeure dans ce qu'il appelle la philosophie de la nature, comme une partie. Alors que Aristote reconnaît que l'âme est capitale chez le vivant. Or, par l'âme humaine, le vivant se sépare du monde physique. Il se distingue du monde physique. Ce qui nous fait comprendre que si on met trop la philosophie du vivant du côté de la philosophie de la nature, on ne distingue plus ce qui caractérise le vivant, l'homme vivant. Il est sûr que les gros problèmes d'aujourd'hui pour la philosophie du vivant, c'est d'une part le développement de la science biologique, d'autre part le développement de la psychologie. La philosophie du vivant, de fait, est au-delà de la science biologique, est au-delà de la psychologie. Alors, c'est intéressant de regarder leurs relations, parce que matériellement, on regarde les mêmes réalités. La science biologique, la chimie aussi, mais c'est surtout les sciences biologiques, c'est évident. Il essaie de comprendre comment les conclusions de la science biologique ne peuvent pas être des conclusions de la philosophie du vivant. Mais ce qui est vrai, c'est que le progrès de la science biologique s'est fait d'une manière remarquable durant ce siècle, oblige le philosophe d'aller plus loin. Ça le talonne. Et ça l'oblige de rester très philosophe. Parce que c'est évidemment à l'égard de la cause matérielle du corps, de la science biologique, apporter des précisions que le philosophe devra regarder. Ce qui ne veut pas dire que la philosophie du vivant est une méta-science biologique. Ce qui ne veut pas dire que la philosophie du vivant, qui implique la philosophie de l'intelligence, en psychologie. Alors c'est là où c'est très délicat à bien préciser les relations entre la philosophie du vivant, la science biologique et la psychologie. Il faut le savoir et être particulièrement attentif à ça. Le premier grand problème de la vie dans notre univers. seconde. Il faut donc d'abord essayer de comprendre ce vivant particulier qui est l'homme et de l'étudier comme vivant. Le premier problème qui se pose, c'est de comprendre ce qu'il est comme vivant. Lui a maintenu la distinction de l'âme et du corps. une vraie explication philosophique, une explication morale. On peut dire que la question de l'âme chez Descartes a été reprise à la manière de Descartes. Thank you. en philosophie, mais c'est intéressant, parce que c'est quand même le souci d'un savant. Qu'est-ce que c'est que l'âme, dit Brigitte. C'est l'interrogation, cette petite. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Vous avez parlé de la science biologique, vous n'avez rien dit de l'âme. Alors, je crois qu'il faut d'abord montrer que la science biologique ne peut pas parler de l'âme. Étant donné ce qu'elle est, étant donné sa méthode, ne peut pas parler de l'âme. L'âme est cachée pour le biologiste. Et le biologiste, si les chrétiens pour reconnaître ça, il peut très bien le reconnaître. La science biologique ne peut rien dire de l'âme. Donc, les seules réalités qui existent sont celles que je détermine par la science. Je peux dire, l'âme n'existe pas. Et il faut bien distinguer là les diverses positions. Celui qui dit, je ne peux pas connaître l'âme, l'âme ne se dévoile pas à moi. Celui qui est savant et qui va jusqu'au bout de la science. Celui qui dit, puisque je ne peux pas la connaître au point de vue biologique et que c'est la seule connaissance que j'ai de l'homme, l'âme n'existe pas. Et la position du croyant positiviste, parce que ça existe, l'âme, seule la foi me permet de le dire. Comme pour Dieu. Et c'est ça qui est très curieux et qui est intéressant à noter, c'est que le mot Dieu, le mot âme, ce sont des mots qui ont été portés par les traditions religieuses. En premier lieu, ce sont des mots, des termes inventés par les traditions religieuses. Et que le philosophe progressivement a intégré dans sa philosophie. Alors, est-ce qu'il aurait mieux valu mettre un autre mot pour ne pas faire des tas de confusions comme on fait aujourd'hui? Peut-être. C'est toujours très délicat, vous voyez, de transporter un terme qui existe. Vous n'allez pas demander à un psychologue, vous connaissez cette personne? Ah, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en dites, vous, en tant que psychologue. Si vous faites ça, d'abord, je vais presque dire, c'est une faute par rapport à l'amitié. Ah, c'est pas commun, ça, vous savez. Ce qu'on va dire, c'est la prudence. Je veux savoir, je suis sûr. Je suis sûr que je n'aime pas un brigand. Je suis sûr que j'aime quelqu'un d'honnête. Je suis sûr de ses intentions. Voyez, la certitude. Tout de suite, c'est la certitude qui va l'emporter. Et la certitude, tue l'amour. C'est ça qui est terrible. Descartes tue l'amour. Il n'y a plus de véritable amour avec Descartes. Parce qu'il veut la certitude. Il n'y a pas d'amour dans la connaissance mathématique. Il n'y a pas d'amour dans la connaissance psychologique. Parce que vous analysez tout et vous voulez tout analyser. Ce qui est merveilleux dans la philosophie, c'est de comprendre que la cause finale, c'est la cause des causes. Si elle est la cause des causes, elle a une priorité sur toute analyse. Et que l'amour seul se justifie comme amour. Là, vous voyez la parole de Saint Bernard, reprise par Thomas d'Aquin. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Tandis que si vous analysez, vous mettez une mesure au-delà de votre amour. Et vous tuez par le fait même ce qu'il y a d'unique dans cet amour personnel. C'est ça l'exigence de l'amour d'amitié. C'est qu'il y a cette confiance que vous faites en l'autre et vous acceptez que cela se réalise non pas grâce à une analyse psychologique ou philosophique ou éthique, mais que ça se réalise d'une manière beaucoup plus profonde dans ce lien personnel et dans cette connaissance affective et aimante. Et quelque chose qui va bien plus loin, beaucoup plus loin. Mais alors, je crois que c'est ça qui est important à saisir. L'amour d'amitié, c'est donc en présence autre, une personne autre que moi, de ce je suis autre que le mien, et qui me dépasse, parce qu'il est justement autre que le mien. Et c'est dans ce sens-là que la bonté de la vie peut me finaliser. Mais vous comprenez bien, et alors là, toujours se rappeler cette petite analyse que saint Thomas fait par rapport à la bonté. Il dit que la bonté...